Écho d'ici, écho d'ailleurs. Olivier Rougy.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Et si l'on se penche sur les rouages de l'économie russe, on découvre un exemple unique dans l'histoire d'une économie qui, en quelques années à peine, s'est transformée du tout au tout. Car si l'on remonte à une époque pas si lointaine, en 1991, avant le lancement des grandes réformes libérales de Boris Yeltsin, cette économie était quasi exclusivement étatique. L'État contrôlait les entreprises, le système bancaire, les prix. Il fixait par des plans quinquennaux les objectifs de production. La richesse se mesurait en tonnes d'acier produites, en nombre de tracteurs. Un quart de siècle plus tard, cette économie russe a radicalement changé. À l'heure où Vladimir Poutine entame son quatrième mandat, nous pouvons nous interroger sur les mutations de cette économie. S'est-elle insérée dans l'économie monde? Quelle place y occupe-t-elle? Quelles sont ses forces, ses faiblesses? Comment innove-t-on en Russie? Comment dépense-t-on son argent? Comment s'est opérée la révolution libérale? Il s'agit bien toutefois d'une révolution libérale. Voilà les questions qui seront débattues dans cette émission avec nos deux invités, un praticien et un technicien. Je vous les présente. Édouard Moratpour, bonjour.
Bonjour.
Et Julien Vercueil, bonjour à vous.
Bonjour.
Édouard Moratpour, vous êtes publicitaire. Vous avez travaillé à Moscou durant une vingtaine d'années avec et pour de grands groupes internationaux de publicité, au point qu'un magazine russe vous a d'ailleurs surnommé le père de la publicité. Ça nous rappelle un peu le petit père des peuples. Hein. On pourra peut-être en parler tout à l'heure. Vous êtes aussi essayiste et romancier. Je cite notamment la Compagne de Russie, Le Mausolée, paru aux éditions Michalon, et Les Dix Plaies de Russie, chez Fauve. Alors très rapidement, Édouard Moratpour, une première question. Pourquoi êtes-vous allé en Russie en 1990?
Pour deux raisons. Premièrement, l'envie de l'aventure. Après avoir fait 20 ans de publicité en France, au moment de la chute du mur de Berlin, j'ai eu une intuition. Je me suis dit, l'URSS à l'époque va s'ouvrir à l'économie de marché. Or, économie de marché veut dire communication. Et donc, je me suis dit, je vais aller pour un an, et j'y suis resté 20 ans. Et deuxièmement, j'avais un joker, c'est que je parle russe. Ma mère était russe, et donc le russe était ma langue maternelle, donc j'ai pu parler avec 300 millions de soviétiques dès le départ.
Deux bonnes raisons donc de se retrouver en Russie. Je me tourne vers notre second invité, Julien Vercueil. Vous êtes économiste, maître de conférence à l'INALCO, l'Institut National des Langues et des Civilisations Orientales. Vous êtes docteur en économie et votre thèse s'intitulait « Transition et ouverture de l'économie russe entre 1992 et 1999 ». Vous avez publié de nombreux travaux, notamment « Les pays émergents, mutations économiques, crises et nouveaux défis ». C'était en 2010 aux éditions Bréal et vous avez publié aussi chez l'Armatan, transition et ouverture de l'économie russe. Même question que pour Édouard Moratpour. Qu'est-ce qui a amené le jeune chercheur que vous étiez à mettre ses pieds de l'autre côté du rideau de fer?
Et il se trouve que en 1991-1992, au moment où tout basculait, j'étais en train de me destiner à la recherche en économie. Et j'avais un petit bagage linguistique, puisque j'avais étudié le russe au lycée. Et donc, on avait là, en face de nous, un laboratoire à ciel ouvert pour analyser des transformations fondamentales, sociétales et économiques dans l'ex-Union soviétique.
Deux hommes curieux, donc. Alors, au cours de cette émission, nous écouterons les reportages de notre correspondant à Moscou, Daniel Vallot. Nous entendrons aussi, grâce à la sonothèque de RFI, les archives sonores de Boris Yeltsin et de Vladimir Poutine. Pour comprendre où en est l'économie russe aujourd'hui, il faut savoir, messieurs, d'où elle vient. Édouard Moratpour, lorsque vous arrivez à Moscou en 1990, vous basculez dans un univers entrepreneurial totalement différent de ce que l'on vous a enseigné à HEC, puisque vous êtes issu de cette prestigieuse école. Est-ce qu'il était facile à l'époque de monter son entreprise et de créer une entreprise à Moscou en 90?
C'était très difficile parce que je suis arrivé dans ce pays communiste, donc économie collectiviste, il n'y avait pas d'entreprise privée. Donc, on a dû nous débrouiller, en quelque sorte, pour créer ce qu'on appelait à l'époque une représentation étrangère, un bureau de représentation. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas même de feuille de salaire, il n'y avait pas d'impôts, même les gens n'avaient pas de compte en banque, il n'y avait pas de carte de crédit, pas de chèque. Donc, imaginez comment monter une entreprise. Je me suis débrouillé, j'ai trouvé un bureau dans un coin d'un cinéma qui s'appelait le Gavana. J'ai recruté des gens un peu partout. Par exemple, ma première collaboratrice était une serveuse dans une pizzeria. Ensuite, j'ai pris un ingénieur qui est devenu commercial. J'ai pris un médecin qui s'est occupé des médias. Donc, vous voyez, j'ai dû former des gens. En fait, ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais appris puisqu'il fallait tout inventer.
Il y avait déjà quand même eu un embryon, on va dire, d'économie libéralisée sous la perestroïka avec Gorbatchev qui avait autorisé les coopératives.
Ça avait commencé. En effet, moi, j'ai entendu Gorbatchev à la télé vanter les mérites de l'économie de marché, ce qui était étonnant dans un pays communiste, mais c'était le tout début. Il n'y avait pas de tissu juridique, il n'y avait rien. C'était vraiment le désert complet pour une entreprise qui veut s'installer.
Celui qui a beaucoup vanté l'économie de marché, c'est Boris Yeltsin, alors qu'il était encore à la tête de la Fédération de Russie dans l'ensemble soviétique. Boris Yeltsin s'est rendu à Strasbourg, c'était en avril 91. Il venait assister à la création de la BER, de la Banque Européenne de Reconstruction et de Développement. Je vous propose de l'écouter.
La création de ces banques, disons, d'entraide, eh bien, c'est un phénomène tout à fait positif et on ne peut que s'en réjouir. C'est sur ces bases que nous devons construire nos relations économiques. Nous nous prononçons fermement pour une transition à l'économie de marché. Le Congrès des députés de la Fédération de Russie vient d'approuver un programme dans ce sens. Nous avons entamé les privatisations. C'est un processus qui va se dérouler d'une manière très active en Russie.
Julien Vercueil, on a du mal aujourd'hui à mesurer ce que signifiaient les propos de Boris Yeltsin et ceux avant de Mikhail Gorbatchev. Ce pays qui était étatisé, qui était concentré, pyramidal, dont l'économie était dirigée entièrement par l'État, décide de s'ouvrir à l'économie de marché. Y avait-il à l'époque une recette ou un mode d'emploi pour lancer ces réformes ?
Il y avait un certain nombre de références partagées de la part des économistes occidentaux et de la part des économistes qui gravitaient autour justement de Boris Yeltsin à cette époque. Et ces références partagées, elles venaient de l'expérience de transformation et de libéralisation des économies latino-américaines dans les années 80.
Vous parlez de l'école de Chicago, de Jeffrey Sachs.
Alors, il y avait cette école-là, il y avait l'école monétariste, effectivement, mais c'était plus large que ça. Ça touchait aussi le MIT, ça touchait aussi la London School of Economics, ça touchait aussi la Harvard Business School, et évidemment les experts qui se trouvaient dans ces institutions gravitaient aussi autour de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Donc en 1990, on avait même à Washington inventé le terme de Washington Consensus, le consensus de Washington, qui indiquait qu'il y avait une sorte de congruence dans la pensée économique entre universitaires et praticiens de l'économie et conseiller, qui consistait à dire quoi ? Qui consistait à dire en fait que les expériences latino-américaines sont pertinentes pour analyser les expériences des pays d'Europe centrale orientale. On avait une deuxième référence, puisqu'on est en 1991, qui était la chute du mur de Berlin et les expériences de transformation rapide, voire radicale, qui avaient pu être menées à certains pays, dans certains pays d'Europe centrale orientale.
Donc on avait une véritable influence américaine auprès des dirigeants russes et voire même des dirigeants soviétiques sur la façon dont transformer l'économie.
Oui, il y avait une influence, je dirais, plus globalement anglo-saxonne et occidentale, parce qu'il y avait en fait assez peu de voix dissonantes à l'époque sur les meilleures voies et moyens, les one best way, hein, la one best way pour passer d'une économie planifiée à une économie de marché. Et c'est en partie pour cette raison que les réformes qui ont été proposées par l'entourage de Boris Yeltsin ont été aussi radicales.
Elles ont été radicales. Édouard Morapour, peut-être vous pouvez nous éclairer, parce que à l'époque, l'économie soviétique ne fonctionnait plus. C'était un cadavre en arrêt cardiaque.
Oui, je crois qu'il faut bien comprendre que le communisme s'est écroulé à cause de l'économie. Hein. Le pays était en ruine. Donc la façon de s'en sortir a été la tentative de Gorbatchev avec la perestroïka. Mais ensuite, Gorbatchev parti, l'URSS étant écarté, Yeltsin, en effet, s'est entouré, vraiment, ça c'est tout à fait exact, de conseillers américains, notamment Jeffrey Sachs, qui était le conseiller personnel de Chubaïs, qui était premier ministre. Parce que l'idée des Américains et des Occidentaux, c'est vrai, c'est de dire que on imposera la démocratie, entre guillemets, par l'économie de marché. C'était ça l'idée. Mais avec un pas très rapide. Donc ils ont très très rapidement installé ce qu'ils ont appelé la privatisation. Un très joli mot, mais qui qui cache des dégâts considérables au niveau du peuple russe. Hein. Je pourrais vous l'expliquer en deux mots.
On va revenir sur la privatisation dans quelques instants. Mais l'idée à l'époque était aussi, après la libéralisation des prix de 92, l'idée était de créer des grands groupes industriels adossés à des banques pour revitaliser cette économie. Est-ce que c'est à cette époque qu'on a créé les oligarques ?
Moi, je dirais les choses un tout petit peu autrement. C'est pour ça que pour moi, pourquoi je parle de privatisation, c'est que des Russes à l'intérieur, à haut niveau, me disaient, en fait, c'est le partage du gâteau. Ça, c'est un mot très important. Je vous l'explique en deux mots. Communisme veut dire que tout appartient à l'État, donc rien n'appartient à personne. Donc, il y a des gens extrêmement malins qui se sont dit, comment partager ce gâteau entre nous ?
Est-ce qu'il fallait créer ces oligarchies, ces grands groupes adossés à des banques pour secouer ce cadavre ?
Il faut rappeler qu'il y avait une demande sociale très forte, justement, excédée par l'accroissement des pénuries, excédée par la chute du niveau de vie qui s'était accélérée pendant la perestroïka. Malgré tout, il y avait une demande de changements radicaux. La population le souhaitait. Maintenant, elle n'avait pas forcément non plus les clés pour comprendre tout ce qui se tramait, ce qui a été expliqué précédemment sur le partage du gâteau. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas eu que les privatisations. Les privatisations, c'est un élément des réformes qui ont été menées à ce moment-là. Il y a eu des réformes de libéralisation, c'est-à-dire de créer des marchés qui n'existaient pas, de créer la possibilité pour les prix d'évoluer de manière différente de ce qu'ils évoluaient lorsqu'ils étaient administrés par l'État, en fonction de l'offre et de la demande. Et il y a eu aussi une volonté de stabiliser macroéconomiquement ces prix, de façon à ce qu'on n'entre pas dans un processus d'hyperinflation. Donc, sur les privatisations, ce que je voudrais juste indiquer, c'est que, par exemple, il n'existait pas de système bancaire. On avait une grosse banque, qui était la banque d'État, et pas de banque de second rang, ce qu'on appelle des banques de second rang, c'est-à-dire des banques qui peuvent être privées ou pas, mais qui font le lien avec les particuliers.
Oui, et donc il y avait la banque du commerce extérieur, la grosse banque,
il y avait la Vnitekonom Bank, il y avait la Vnitekonom Bank, il y en avait une qui réglait la dette extérieure de l'Union soviétique, qui était très importante, et l'autre qui réglait les questions de commerce extérieur. Elles étaient toutes les deux, en fait, des succursales de la grosse banque, et c'était à ça que se résumait le système bancaire. Donc il fallait créer ces banques. Et ces banques ont été créées à partir de rien, sur la base notamment de l'accumulation de capital de certaines personnes privées, et elles ont servi de levier pour ensuite participer aux deux phases de privatisation des années 90, sur lesquelles on reviendra peut-être si on a le temps.
Édouard Moratpour, vous étiez à l'époque homme d'affaires, entrepreneur à Moscou. Est-ce que vous aviez justement conscience que les défaillances du système bancaire vous empêchaient d'avancer ? Est-ce que vous avez pu travailler sans ce système bancaire ?
Comme je vous l'ai dit, les gens n'avaient pas de compte en banque.
Donc comment vous faisiez pour vos opérations ?
C'est très simple, je raconte personnellement, j'étais obligé d'aller à la banque tous les mois, par exemple, même dans les années 94-95, j'allais avec ma carte de crédit de l'entreprise pour laquelle je travaillais, je prenais 20 000 $ avec deux gardes du corps qui m'accompagnaient, et ensuite je venais à mon bureau, je faisais des enveloppes, et je payais en liquide chaque employé qui me signait un petit papier.
Vous n'avez jamais été attaqué, vos gardes du corps n'ont pas
J'avais
été...
J'avais des gardes du corps, heureusement, mais en fait, ça ne pouvait se passer que dans un climat de confiance avec le groupe avec lequel je travaillais. Mais comme ce groupe n'était pas coté en bourse, il avait compris qu'il fallait être flexible, s'adapter à la Russie, sinon on n'aurait jamais pu nous installer.
Vous écoutez Écho d'ici, Écho d'ailleurs, nous sommes en compagnie de Julien Vercueil, universitaire et chercheur, Édouard Moratpour, romancier et entrepreneur, qui a vécu durant plus de 20 ans en Russie. Nous parlions de la privatisation. Est-ce qu'elle a été vécue comme un mal nécessaire ou comme une spoliation par les Russes ou comme un événement historique, Julien Vercueil?
Ce qu'il faut rappeler, c'est que à partir de 1995, la Russie est devenue le premier pays au monde par le nombre d'actionnaires. Donc, d'une certaine manière, le premier capitaliste au monde, si l'on prend le critère du nombre d'actionnaires comme référence.
Parce que chaque Russe a reçu un bon de privatisation.
Parce qu'en fait, il y a eu une première vague de privatisation qu'on a appelée la privatisation de masse, où citoyens étaient en capacité de recevoir des coupons de privatisation avec lesquels ils pouvaient acheter des parts d'entreprise. Mais ce qui a été dit tout à l'heure est juste, il y a eu un processus de concentration de ces coupons de privatisation parce que les Russes essayaient de survivre et pour survivre vendaient aux plus offrants leurs bons de privatisation. Les plus offrants, c'était ces fameux smart guys, ces fameuses personnes plus intelligentes ou plus fortunées que les autres qui amassaient des coupons de privatisation et avec ça achetaient des paquets d'actions leur permettant de contrôler certaines entreprises plus profitable et plus lucratif potentiellement que d'autres.
Édouard Morat, pourquoi les citoyens, pourquoi les gens n'ont pas profité de cette privatisation ?
Alors, je voudrais expliquer encore une fois ce que vient d'être dit, mais de façon concrète.
Allez-y.
Prenons une usine de chimiques qui, sur le marché international, vaut 1 milliard. Il y a des gens qui sont réunis pour l'évaluer, parce qu'il faut l'évaluer. Ils l'évaluent non pas 1 milliard, mais 1 million de dollars. Donc, vous voyez, nettement moins. Et ensuite, supposons qu'il y ait 10 000 personnes qui travaillent dans l'entreprise, donc ils donnent un coupon de 100 dollars à chacun. Donc, il dit, vous êtes content, vous êtes actionnaire. En effet, il y a eu beaucoup d'actionnaires. Mais ensuite, il y a quelqu'un qui vient les voir dans le même groupe, hein, de futurs oligarques, en leur disant, vous voyez, votre action à 100 dollars moins, je vous la prends à 1 000 dollars. Évidemment, le type est très content. Bien sûr, je vous la vends tout de suite. Mais simplement, en faisant le calcul, vous verrez que les oligarques en question se sont accaparés d'une entreprise qui vaut 1 milliard pour 1 million.
Sur une population qui n'avait aucune idée de ce qu'était l'actionnariat privé, l'entrepreneuriat.
Aucune idée. Même la démocratie, ils ne savaient pas. Même moi, j'ai posé la question, qu'est-ce que c'est la démocratie pour vous ? Ils me disaient, c'est chacun fait ce qu'il veut.
Et cela s'est fait également, non seulement au détriment des citoyens individuellement, mais aussi des citoyens en tant que contribuables. C'est-à-dire que l'État lui-même a été totalement spolié dans cette affaire. Hein, puisque on peut estimer, en faisant des estimations grossières, que la valeur des entreprises qui ont été privatisées a été sous-estimée d'un facteur d'environ 1 pour 50, c'est-à-dire qu'elles ont été finalement vendues pour 1/50 du prix qu'elles auraient dû obtenir, ce qui veut dire que l'État a perdu la contrepartie, c'est-à-dire pratiquement 80%, 90% de ce qu'il avait à vendre. Hein. Donc on a une spoliation de l'État dans la première phase de privatisation, que l'on retrouve dans la privatisation de Gazprom, qui a elle aussi été vendue pour une fraction de sa valeur aux anciens dirigeants de Gazprom.
Mais qu'est-ce qui explique cette sous-évaluation des entreprises au moment de la privatisation?
C'est ce qu'on appelle des conflits d'intérêts, c'est-à-dire qu'on a demandé à ceux qui allaient éventuellement bénéficier de cette privatisation de réaliser, d'organiser et d'évaluer les entreprises qu'ils dirigeaient. Comment est-ce qu'on pouvait obtenir que autant d'entreprises simultanément soient privatisées ? On ne pouvait pas créer une task force extérieure qui évalue toutes ces entreprises. On a demandé aux cadres dirigeants de ces sociétés d'évaluer eux-mêmes leur propre société.
L'État, Julien Vercoeil, n'a pas joué son rôle ou n'était peut-être pas en mesure de pouvoir le jouer à l'époque.
Il était totalement pris en otage par toute une série de conflits politiques, cette fois-ci, de conflits économiques, mais aussi de conflits politiques. Vous aviez le conflit entre l'exécutif et le législatif, vous aviez le conflit entre le centre et la périphérie, entre Moscou et les différentes républiques séparatistes. Donc il y avait énormément de conflictualité politique, et dans ce cadre-là, chacun essayait d'user de son pouvoir politique à partir de ses ressources économiques pour obtenir des avantages, et à ce jeu-là, ce sont les futurs oligarques qui l'ont emporté au détriment de l'État.
Édouard Morat.
Oui, pour résumer les choses, il n'y avait pas d'État. Il n'y avait plus d'État. Mmh. Et l'argument qui a été donné par ces gens qui sont privatisés en fait eux-mêmes les entreprises, c'était de dire on la sous-évalue pour empêcher les étrangers de venir s'accaparer de nos biens. Donc pour que les Russes puissent y accéder. Mais c'était un alibi. Tout ce plan était prévu dans cette première étape. Hein. Ne nous faisons pas d'illusions, c'était prévu. Et il y a eu ensuite une deuxième phase.
C'était encore prévu par Anatoli Tchoubaï
les gens qui ont voulu se partager le gâteau. C'est très simple, c'est les gens qui avaient accès au pouvoir, ou qui voulait avoir accès. Et ensuite, il y a eu cette fameuse deuxième étape, encore plus redoutable, puisque pour l'élection de Poutine de 96, il avait besoin d'argent. L'État était en fait faible, donc Yeltsin avait besoin d'argent, et il y a eu 7 banquiers, il y en a eu 7 essentiellement, dont Berezovsky, Khodorkovsky, etc., lui ont dit, on va vous prêter de l'argent pour votre campagne, mais en garantie, vous allez nous donner les entreprises, les gros fleurons de l'industrie russe, et notamment l'énergie, en garantie de ces vouchers qu'on va vous donner.
Donc, est-ce que durant cette époque, où vous étiez entrepreneur à Moscou, le secteur privé qui était naissant, qui était émergent, les PME, les petites entreprises, des sociétés comme la vôtre, pouvaient pallier ces défaillances publiques, ces défaillances de l'État, cet effondrement de la production industrielle qu'on va voir se produire très rapidement. Est-ce qu'il y avait l'émergence d'un secteur privé à l'époque ?
Il y avait une émergence, bien sûr, d'un secteur privé, aussi bien russe que étranger. Des entreprises françaises de renom se sont installées, en effet. On faisait de la publicité, du marketing. Donc ça commençait, mais juste pour terminer, c'était important, c'est dire que cette fameuse deuxième phase, pourquoi elle était terrible? Parce que l'État avait dit, si on ne peut pas vous rembourser, on vous paye en entreprise ce qu'on ne peut pas payer. Donc on savait très bien que les fleurons comme l'énergie allaient retomber aux mains des privés, donc des fameux oligarques. C'était encore la privatisation encore plus poussée.
Julien Vercueil, dans cette ambiance très particulière à l'époque, les entreprises qui survivent sont les seules finalement rentables, c'est-à-dire les matières premières, l'énergie, le reste de la production nationale s'effondre.
Oui, on a une chute de la production qui commence dès 1992, très très forte à ce moment-là. Vous avez une chute du produit intérieur brut qui est estimée sur uniquement l'année 1992 à moins 19%, hein, sur une seule année. Elle continue jusqu'en 1995. À l'intérieur, vous avez une chute de la production industrielle qui est extrêmement importante, mais qui est un petit peu compensée par le fait que justement les entreprises exportatrices, celles qui ont réussi à continuer à accéder au marché international, nationaux, par exemple les entreprises de matières premières et de produits de base, comme par exemple l'acier, l'aluminium, etc., ont eu des résultats qui leur permettaient malgré tout de maintenir un certain niveau de production. Ensuite, vous avez un développement extrêmement rapide des activités financières, un développement extrêmement rapide des activités commerciales, qui sont à l'intérieur de la Russie, qui sont donc ne sont pas concurrencées par des importations et qui peuvent se développer dans un contexte de récession. La production qui souffre le plus dans cette situation, c'est la production qui est exposée aux importations, parce que ce qu'il se passe et qu'on n'a pas mentionné jusqu'à présent, c'est que dans le même temps, au moins jusqu'en 95, vous avez une très forte inflation en Russie qui est liée au reliquat de l'économie de pénurie d'avant, mais qui est liée aussi au fait qu'il n'y a pas vraiment de contrôle sur la création monétaire. Et cette inflation entraîne le renchérissement des produits en Russie et donc la possibilité pour les importations de concurrencer ces produits en Russie.
Et
donc,
les produits occidentaux de meilleure qualité,
qui en plus effectivement sont de meilleure qualité. Donc pour ceux qui ont le pouvoir d'achat leur permettant d'accéder à ces produits, eh bien ils font vite le choix et cela augmente les importations de produits manufacturés au détriment d'une production qui aurait pu éventuellement se maintenir. Et on a des chutes absolument spectaculaires de la production. Par exemple, entre 1991 et 1998, vous avez pour les productions de machines-outils une chute de 98%.
Ouais, et je crois que la production de montres s'est totalement arrêtée à l'époque.
Oui, vous avez des secteurs qui disparaissent totalement.
Éco d'ici, éco d'ailleurs, nous sommes en compagnie de Julien Vercueil et Édouard Moadepour. Je vous propose une petite pause musicale très contemporaine en compagnie du groupe Leningrad et ce morceau intitulé Chepera.
Официант, я здесь проездом из Москвы и сразу в Ниццу. Заскочить я вдруг решила к вам в культурную столицу. Я с дороги только что, и я несколько устала. Мне б шампанского бокал, а не найдется ли кристалла?
Что вы, тетя, меня тетите? Если выпить вы хотите, то берите водки литер. Это ж Питер, тетя, ну что, берете?
Ну хорошо, несите водку, только стопку и не больше. Я пила ее однажды, дегустировала в Польше. И скажу вам, не стесняясь, водка — это не мое. На мой вкус риска немного, как шампанское мое.
Что вы, тетя, мне тетите? Если выпить вы хотите, то берите водки литер. Это ж Питер, тетя, ну что, берете? Чисто Питер!
Извините, прошу прощения. Простите. Ага. Оп. Алло, Алена, это Яна. Чё, сама ты пьяный? Я сегодня отмечаю день граненого стакана в шумном зале ресторана. Перестань, какая пристань? хорошего артиста блесни 302 по 200, посты 3 по 100 по стопкам. Хули все стоят на месте, словно по московским пробкам. Посмотри, какая цаца, прямо парный аналитик. Оставляю официанту не на чай, а на литер. Вы куда летите? В Ниццу? Со столицы вот те нафиг. Так позвольте приземлиться к вам за столик пересадкой.
Как же это?
Vous écoutez Eco d'ici, Eco d'ailleurs. Nous sommes en compagnie d'Edouard Morat pour homme d'affaires qui a vécu en Russie plus d'une vingtaine d'années et le chercheur Julien Vercueil et nous parlons des transformations de l'économie russe. Lorsqu'il arrive au pouvoir à la toute fin de l'année 1999, Vladimir Poutine hérite donc d'un pays traumatisé, on l'a vu, et dont l'économie peine à se développer. Et Vladimir Poutine, loin de mettre un terme aux réformes, va les réorienter. Je vous propose d'écouter l'extrait d'une interview qu'il a accordé à l'un de nos journalistes, Daniel Lesesquel, en l'an 2000.
Aujourd'hui, le taux de croissance de PIB est de l'ordre de 7 à 8%. Aujourd'hui, les conditions sont très favorables pour mettre en place les réformes structurelles. Et l'une des tâches primordiales, c'est les réformes structurelles dans le secteur bancaire, dans le secteur de finances. Et moi, en tant que chef d'État et le gouvernement, ont des projets là-dessus. Nous avons déjà présenté les projets de loi appropriés à la Douma d'État. Nous sommes en contact étroit avec les dirigeants de la Banque centrale. Nous avons des projets très concrets et nous les développons ensemble avec les experts de la Banque mondiale. Et la Banque mondiale nous fournit une assistance de très bonne qualité.
C'est drôle d'entendre Vladimir Poutine faire référence à la Banque mondiale à l'époque, en l'an 2000. Je crois qu'aujourd'hui, il n'en serait plus de même. Julien Vercueil, qu'est-ce qui va changer avec l'arrivée de Vladimir Poutine ?
En fait, il y a même un double traumatisme qui explique ce qui va changer avec l'arrivée de Poutine. À la fois le traumatisme des années 90 et à la fois le traumatisme du crash de 1998 où la Russie a fait défaut sur sa dette extérieure. Et donc ça va marquer de manière tout à fait fondamentale Vladimir Poutine sur sa conception de la souveraineté économique. C'est-à-dire ce qu'il va chercher, c'est reconstituer une forme de souveraineté économique d'un pays qu'il a perdu. L'État était tombé en déliquescence et du coup la souveraineté économique extérieure de cet État était elle aussi mise à mal. Donc la première des tâches qu'il va essayer de se donner, c'est de reconstituer l'État. Et pour cela, il va commencer par une réforme fiscale. Une réforme de simplification fiscale, dont l'objectif est d'essayer de faire rentrer enfin des recettes fiscales dans l'État, puisque l'évasion fiscale était quelque chose de tout à fait généralisé en Russie avant. Et c'est ce premier point de départ qui va lui permettre ensuite, de proche en proche, d'avancer sur d'autres domaines. Comme par exemple, le deuxième domaine sur lequel il va s'atteler, c'est la reprise de contrôle du secteur énergétique.
Oui.
Et en particulier en essayant de reprendre le contrôle, il va y arriver au bout de 4 ans, de Gazprom.
Voilà, on va revenir sur cet aspect-là dans quelques instants, mais Edouard Morat-Porche, je voulais vous poser une question. Vous l'aviez senti, ce changement, quand Vladimir Poutine est arrivé? Est-ce que les hommes d'affaires, est-ce que les entrepreneurs souhaitaient un changement? Est-ce qu'on attendait quelque chose?
Tout à fait, on attendait, parce qu'on a eu raison de parler beaucoup de la période Yeltsin tout à l'heure, parce que c'est les années Poutine s'explique par les années Yeltsin. C'est le contre-coup, c'est le balancier. Pourquoi? Parce que les années Yeltsin, on l'a vu, c'était le chaos. C'était la déstabilisation. Et il n'y avait plus de stabilité. Les Russes en souffraient. Ils avaient peur de l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer? Et donc Poutine, en fait, a pris le contre-pied. Et la popularité de Poutine s'appuie en très grande partie sur la stabilité.
En tant qu'homme d'affaires, on a le sentiment qu'à l'époque, finalement, les milieux d'affaires s'étaient habitués à vivre dans ce système instable, en déséquilibre permanent, compliqué, mais finalement qui fonctionnait et qui ramenait de l'argent, qui brassait beaucoup d'argent. Est-ce que vous l'avez senti à l'époque? Est-ce que vous vouliez autre chose?
Nous, on voulait avoir les règles internationales, le reporting, la comptabilité, les banques, payer les gens enfin avec des virements bancaires. Les gens ont eu des cartes de crédit, on a pu leur verser les salaires officiellement, donc on attendait que ça, hein. On était très heureux.
De la stabilité.
De la stabilité, et les Russes surtout étaient très très contents de la stabilité, parce que les Russes ont toujours peur du changement, ils se disent toujours, on ne veut pas changer, parce que ce sera peut-être même pire ensuite. Donc comme Poutine leur a promis et amené une certaine stabilité, il est devenu très populaire.
Alors, Poutine va redistribuer les cartes récupérées, on l'a dit tout à l'heure, le secteur gazier et pétrolier, du moins, peut-être pas les récupérer entièrement, mais mieux les contrôler, mettre ses hommes à la tête de ces entreprises, des hommes qu'il contrôle. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que cette récupération profite à l'ensemble de l'économie russe? Est-ce que, en remettant de l'ordre, on ranime la machine?
En remettant de l'ordre, on crée les conditions pour pouvoir éventuellement redistribuer une partie des recettes que les secteurs sont capables de générer par eux-mêmes, quand on est l'État.
L'État récupère donc des recettes.
Mais encore faut-il qu'il y ait un autre ingrédient qui soit ajouté à cette recette. Ce deuxième ingrédient, c'est la remontée des prix internationaux des hydrocarbures. Parce qu'en fait, en mars 1999, les prix internationaux du pétrole étaient de $10 le baril. Et donc, ce qui va se passer et qui va être une aubaine absolue pour Vladimir Poutine, c'est à partir de milieu des années 1999 et avec des évolutions un peu erratiques jusqu'en 2004, mais ensuite de manière très très continue et très rapide, une très forte augmentation des prix internationaux du pétrole. Ce qui va entraîner une amélioration de la situation du secteur, qui va lui permettre d'investir, de se moderniser, d'augmenter sa production pour la première fois. Et ensuite, eh bien, de redistribuer à ses propriétaires, qui deviennent de plus en plus des propriétaires publics, les revenus de ces exportations.
Contre-coup, l'État devient très dépendant, finalement, du secteur pétrolier et du secteur gazier.
Évidemment. Alors, vous avez effectivement une sorte de codépendance qui est en train de se mettre en place à ce moment-là et qui continue encore aujourd'hui. Une codépendance dans laquelle vous avez un secteur énergétique, surtout gazier, mais de plus en plus aussi pétrolier avec le développement de Rosneft, puis Rosneft, donc la grande entreprise publique de pétrole, puis le démantèlement de Yukos, qui était une entreprise qui avait été fondée par un oligarque et qui est démantelée à partir de 2004, puis des rachats successifs. Donc ces deux secteurs, le secteur gazier et le secteur pétrolier, dépendent de plus en plus des décisions de l'État, qui devient un acteur puissant et important dans ce secteur. Mais inversement, l'État dépend de plus en plus, pour ses recettes budgétaires, de ce qu'il peut prélever sur ce secteur. Il peut le prélever soit sur les bénéfices de ses entreprises, soit directement en tant qu'actionnaire sur les dividendes de ses entreprises, soit, et de manière encore plus importante, sur les différentes taxes à l'exportation, à l'extraction et les taxes d'assises sur les transports qu'il peut prélever sur ce secteur. Et on va arriver à une situation à la fin de la décennie 2000, 2007-2008, où la moitié du budget de l'État va dépendre directement de la situation du marché international du pétrole. Ce qui est bien, ce qui est tout à fait paradoxal, parce que finalement, cette volonté de souveraineté économique dont je parlais au début, elle va aboutir à une situation où la situation financière de l'État dépend des prix internationaux du pétrole sur lesquels l'État n'a aucune prise.
Donc une autre faiblesse, une faiblesse qui est masquée par une période de prospérité incroyable qui est due donc à ces cours du pétrole élevés au début des années 2000. Est-ce que ça fait illusion? Est-ce que les Russes en sont contents? Parce que finalement cet État qui se met à redistribuer et dont on ne voit pas forcément les faiblesses, c'est-à-dire cette hyperdépendance aux matières premières, tout cela génère quand même, notamment dans les grandes villes comme Moscou et Saint-Pétersbourg, un niveau de vie élevé et j'imagine un climat des affaires un peu plus assaini.
Surtout une inégalité quand même qui va continuer, c'est-à-dire il y a des gens riches ou une classe moyenne qui apparaît dans les grandes villes, mais si vous allez à 50 km de Moscou, vous retrouvez l'Union soviétique, avec ses immeubles délabrés, les hôpitaux qui marchent pas, etc. Et c'est pour ça que je voulais aussi, en complément de ce on parle beaucoup d'État, mais posons-nous la question, qu'est-ce que c'est que le système Poutine? Et c'est à partir de là, en se posant cette question, qu'on comprendra beaucoup de choses. Il faut pas se faire d'illusions. L'État, oui, mais c'est surtout le système Poutine, et qui va durer très longtemps, à mon avis. Qu'est-ce que c'est le système Poutine? En fait, Poutine a mis en place ce que moi j'appellerais une démocratie prétorienne. C'est-à-dire qu'il a autour de lui au moins deux cercles de protection qui sont intéressés directement dans l'économie. Ils gagnent leur argent avec ça. Il a un premier cercle de 50 personnes autour du Kremlin et qui en même temps sont sa protection et en même temps qui ont des intérêts tout à fait directs dans l'économie. Et il y a un deuxième cercle qui est évalué à 500 personnes qui tiennent en fait l'économie et qui s'enrichissent. Si vous voulez, pour vous donner une idée, je vous donne mon explication, la Russie aujourd'hui est une grande firme. une énorme firme avec un PDG qui est Vladimir Poutine. Il a un conseil d'administration qui est le premier cercle et qui l'a mis en place là, qui a intérêt à ce qui dure. Et il y a un comité de direction, des fameux 500 personnes qui dirigent le pays.
C'est une firme. Il a intégré l'économie libérale, finalement.
Il a intégré, il a fait, à mon avis, on ne sait pas que derrière l'État, il y a quand même une grosse entreprise et qui gagne de l'argent.
Et cette entreprise qui gagne de l'argent ne le redistribue pas toujours correctement à la population. Je vous propose d'écouter d'ailleurs à ce propos un reportage de notre correspondant à Moscou, Daniel Valo. On sait que la Russie a traversé des crises très difficiles ces dernières années, notamment celle de 2014 avec le pétrole. Aujourd'hui, 20 millions de Russes, 20 millions, vivent avec moins de 150 euros par mois. Daniel Valo s'est rendu dans un centre d'aide au sans domicile fixe à Moscou. Je vous propose de l'écouter.
C'est une tente rectangulaire adossé à une voie de chemin de fer. Ici, chaque jour, plusieurs centaines de sans-abri viennent trouver un peu de chaleur et de quoi manger. Survêtements bariolés, cheveux longs et sourcils broussailleux, Valérie tente de se réchauffer, une tasse de thé bouillant à la main. Originaire des Pays-Baltes, cet ancien cheminot est sans domicile et sans travail depuis plus de 20 ans.
Je travaillais sur les chemins de fer. J'étais un ouvrier qualifié et tout se passait bien. Et puis tout d'un coup, tout a basculé. J'ai divorcé, mes papiers ont été volés et sans documents, impossible de travailler. J'essaie de me débrouiller comme je peux et ma fille, je la vois de temps en temps. Vous savez, je suis d'un naturel optimiste. J'espère que ma situation finira par s'améliorer.
À l'extérieur de la tente, la distribution débute. Du riz et un peu de viande dans un bol en plastique blanc. Un peu à l'écart, nous rencontrons Ludmila, une jeune femme qui vient tout juste de perdre son travail. Ses vêtements sont encore en bon état et elle-même semble ne pas vraiment savoir ce qu'elle fait là.
Je n'ai plus de logement et je n'ai plus de travail. Alors je viens ici pour trouver un peu d'aide. En attendant que ma situation s'arrange, je dors dans une gare. Le plus dur, c'est le froid. Mais je n'ai pas assez d'argent pour dormir à l'hôtel. Et pour la nourriture, eh bien, je viens ici, tous les jours.
Travailleurs pauvres, chômeurs ou marginaux, les sans-abri qui viennent ici pour se nourrir peuvent également y trouver une aide médicale et psychosociale. Plusieurs ONG se relaient pour apporter cette aide. Tasha Granovskaya est médecin bénévole au sein de l'association La Maison des Amis.
Nous venons ici une fois par semaine pour apporter des soins. L'hiver, bien sûr, la plus grande préoccupation, c'est le froid. Le risque, c'est le gel des pieds ou des mains et bien sûr l'hypothermie. Malheureusement, nous n'avons pas de statistiques officielles sur le nombre de SDF qui décèdent durant la nuit.
Dans un discours prononcé au début de sa campagne électorale, Vladimir Poutine s'est engagé à réduire de moitié d'ici à 2024 le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté. Mais le président russe n'a avancé aucune proposition concrète pour y parvenir.
Julien Vercueil, la question de la redistribution des richesses et de la pauvreté est une question qui préoccupe beaucoup les dirigeants russes et notamment Vladimir Poutine. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi finalement cette économie ne parvient pas à créer des emplois satisfaisants pour tout le monde?
Alors c'est lié en grande partie à l'hypertrophie du secteur pétro-gazier qui empêche le développement d'autres secteurs. C'est lié dans une autre mesure à l'insuffisance des mesures de redistribution dont on a parlé. On a beau avoir pratiquement la moitié du revenu de tous les déciles de la population, des plus riches aux moins riches, qui dépendent des revenus de l'État, vous avez quand même une inégalité en Russie qui est parmi les plus élevées, c'est la plus élevée en Europe, en fait, il n'y a pas de pays qui ait davantage d'inégalité que la Russie, et c'est un des niveaux d'inégalité très très élevés du monde.
Un pays de maîtres et d'esclaves, disait Lermontov en son temps.
Ces deux effets combinés indiquent qu'il y a des difficultés structurelles, en particulier en matière de augmentation de la productivité. Parce qu'en fait, pour pouvoir générer des revenus, il faut qu'une entreprise augmente sa productivité. Mais lorsque les entreprises n'investissent pas, elles ne peuvent pas augmenter leur productivité. Or, vous avez toute une série de secteurs qui sont restés totalement à l'écart du développement économique d'ensemble parce qu'il n'y avait pas de capital à investir dans ces secteurs-là. Et dans ces secteurs, on retrouve les rémunérations les plus faibles, la plus grande précarité et des situations qui qui peuvent socialement devenir très difficiles lorsque l'inflation augmente, ce qui a été le cas en 2014-2015.
Édouard Moratpour, c'est selon vous ce qui explique le fait que ce pays n'ait que 20% de PME, de petites et moyennes entreprises, des entreprises, justement ce tissu qui permettrait de créer des emplois, qui est encore trop peu développé?
Oui, je suis d'accord, vraiment, c'est une économie...
C'est l'accès au crédit.
L'accès au crédit, il est encore beaucoup plus difficile maintenant avec les sanctions. Parce que vous savez que, à mon avis, le handicap numéro un des sanctions, c'est que les entreprises ne peuvent plus faire appel à des emprunts en dollars et en euros.
Avant les sanctions, c'est-à-dire avant 2014 et la Crimée, c'était déjà difficile pour les entreprises.
Oui, alors il y a eu deux époques. Pendant que tout allait bien, il y avait croissance jusqu'en 2007 à cause des prix du pétrole, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc il y avait quelque chose à redistribuer. Le système a redistribué. Ensuite, problème des matières premières et du pétrole, donc chute des cours du pétrole. Donc il y avait beaucoup moins à distribuer. Donc on a distribué beaucoup moins. Et maintenant, c'est un autre problème, c'est avec les sanctions depuis 2014, où la Russie est isolée, c'est encore un nouveau problème. Donc il y a vraiment eu trois étapes.
Alors c'est un nouveau problème, mais c'est aussi très intéressant cette histoire de sanctions décrétées par Vladimir Poutine contre les produits occidentaux, du moins les produits de l'agriculture, parce qu'elle a permis finalement une résilience de ce tissu économique russe. Et on s'aperçoit, et je vous propose d'écouter le reportage de Daniel Valo, on s'aperçoit que depuis que les produits agricoles européens et américains n'arrivent plus en Russie, eh bien les entreprises russes les ont remplacés, les ont supplantés. Je vous propose d'écouter le reportage.
Nous sommes à 150 km environ au sud-est de Moscou. Ici, on élève des chèvres et on produit du lait et des fromages que l'on vend dans toute la région. Anatoly Cherepaka est l'un des employés de la ferme. C'est lui qui s'occupe de soigner et de nourrir les bêtes.
Nous avons 260
chèvres et nous prévoyons d'en avoir un millier. Nous avons des races locales et étrangères et nous faisons aussi des croisements. Et puis voilà Harley. On l'a appelé comme ça parce que ses cornes ressemblent à un guidon de moto. Quand on nous l'a amené, il faisait moins 40 degrés. Et dès qu'elle est arrivée, elle a pris les commandes au sein du troupeau. Vous pouvez approcher, n'ayez pas peur.
En 2014, la petite ferme comptait 3 employés. Aujourd'hui, c'est une dizaine de salariés qui s'occupent de la production et de la vente. 2014, c'est l'année des sanctions et de l'embargo contre les produits agricoles européens. Une bénédiction aux yeux de Sergueï Baleïev, le patron de l'exploitation.
Jusqu'en 2014,
on faisait des fromages très basiques, rien de compliqué. Et puis dès qu'il y a eu l'embargo, les restaurants et les magasins de Moscou ont commencé à nous appeler. Ils voulaient qu'on remplace les fromages français et italiens qu'ils n'avaient plus le droit d'importer. Alors on s'y est mis, on est allé à l'étranger pour apprendre. Pendant 6 mois, on a fait des essais, puis finalement, on a réussi à faire de très bons fromages.
Cette petite exploitation n'est pas une exception en Russie. Avec l'embargo sur les produits agricoles, de nombreux producteurs russes se sont modernisés pour répondre à la demande et pour se substituer aux produits européens.
Ici, tous les producteurs sont contents des sanctions et de l'embargo. Si je pouvais, j'écrirais une lettre aux Américains pour leur dire de continuer avec les sanctions. Parce que pour nous, c'est une très bonne chose.
Sergueï Baleïev se doute bien que l'embargo ne sera pas éternel. Dans quelques années, les produits européens finiront par revenir dans les assiettes des consommateurs russes. Mais il n'est pas inquiet, nous dit-il, car désormais il a acquis le savoir-faire, les contacts et les équipements nécessaires pour se mesurer à armes égales aux producteurs français ou italiens.
Édouard Moratpour, on le voit avec ce reportage, les entreprises russes sont capables de s'adapter. Alors même si on imagine fort bien que la conception de la puissance par Vladimir Poutine ne passe pas forcément par les fromages de chèvre, c'est quand même une bonne nouvelle de voir que cette économie, ce tissu de PME est capable d'émerger et de se développer.
Oui, attention, les sanctions ont provoqué l'embargo de la part de
bien
Poutine.
Sûr.
C'est lui qui a imposé l'embargo, notamment sur les fromages. On vient de l'entendre. Et en effet, il y a plein de gens qui sont très contents. Ils nous ont dit, grâce aux sanctions, on a pu faire des fromages à la française. Je les ai goûtés il y a quelques temps. Ils sont pas si mauvais que ça. Hein. Donc, il y a des gens qui sont très contents. Mais à mon avis, c'est vraiment cantonné à l'agroalimentaire. Je ne vois pas d'effet positif des sanctions sur les autres secteurs pour le moment. Mais il est vrai que dans l'agroalimentaire, il y a des gens qui ont été poussés à produire russe et à vendre russe, puisqu'il n'y avait pas de concurrents étrangers.
Julien Vercueil, est-ce que Vladimir Poutine et son gouvernement ou ses gouvernements ont suffisamment relancé l'investissement dans les secteurs aux technologies, les logiciels, l'optique, les lasers? Est-ce qu'un effort a été fait en direction de ces secteurs-là?
Alors il y a eu certainement beaucoup d'effets d'annonce dans le domaine du complexe militaro-industriel, des efforts tout à fait considérables ont été entrepris. Les dépenses publiques ont très très fortement augmenté dans tous les domaines, aussi bien du côté de l'offre, c'est-à-dire comment stimuler l'investissement dans les entreprises du complexe militaro-industriel qui sont détenues par l'État, que du côté de la demande, c'est-à-dire l'État lui-même est au debout de la chaîne, qui demande davantage d'équipements à ses propres entreprises. Donc ça a permis effectivement de développer la production industrielle dans ce domaine-là. Pour le reste, c'est-à-dire pour ce qui concerne le secteur privé, et on peut prendre un certain nombre d'exemples, l'essentiel est dans les mains des entrepreneurs eux-mêmes. C'est-à-dire que si je prends l'exemple d'un secteur dont on parle beaucoup, qui est le secteur des technologies de l'information et de la communication, du génie logiciel, des services informatiques, qui est un secteur très intéressant à suivre en Russie, on s'aperçoit que c'est un secteur qui résiste bien à la crise. Il continue d'exporter, il continue de générer des revenus d'exportation et de vente à l'international de plus en plus importants.
Vous pensez à quelle entreprise ?
C'est toutes les entreprises du software, avec les grands noms que l'on connaît, comme Kaspersky, mais il y a aussi tout des secteurs de la bureautique, des logiciels bureautiques, une entreprise russe qui fait des logiciels qui se substituent à ceux de Microsoft, d'autres entreprises qui sont plus dans le domaine des réseaux sociaux, Vkontaktier, Instagram, etc. Et donc, vous avez des entreprises qui se sont développées dans les années 90, qui ont continué à s'internationaliser dans les années 2000 et qui traversent aujourd'hui la crise avec des ressources qui sont importantes, avec des capacités en termes de capital humain, de recherche et développement, etc., qui sont tout à fait significatives, qui embauchent...
Mais on dit souvent justement que la R&D, la recherche et le développement, c'est ce qui manque en Russie dans les secteurs de pointe, même dans le complexe militaro-industriel.
Indiscutablement, à l'échelle macroéconomique, vous avez entre 1 et 1,5% du PIB qui est investi dans la recherche et développement. C'est tout à fait insuffisant pour espérer un jour rattraper les nations qui sont loin devant. La Russie se situe au 40-45e rang mondial à ce niveau-là. Mais si l'on regarde à l'échelle mésoéconomique, certains secteurs en particulier, on voit que certains ont des capacités de développement. C'était le cas, vous l'avez montré, du secteur agroalimentaire. C'est aussi le cas du secteur des technologies logiciels. De l'information et de la communication et du génie logiciel, à condition que le pouvoir politique ne freine pas ce développement. On a vu un certain nombre de cas récents qui laissent inquiets les observateurs.
Édouard Moratpour, ce sera sans doute le mot de la fin. On le voit, il y a une peur de l'investissement étranger. Énormément de secteurs de l'économie russe sont protégés des investisseurs étrangers. Pourtant, j'ai une question toute simple. Est-ce que l'économie russe peut se développer sans le capital étranger?
Non, mais les étrangers n'ont pas peur et n'ont pas le droit aujourd'hui à les sanctions. Non, on ne peut pas. Un étranger ne peut pas investir directement en dollars et en euros. Donc les sanctions les empêchent.
Sauf que avant 2014, il y avait déjà des secteurs protégés fermés aux étrangers.
Il y en avait un certain nombre, mais je pense qu'avec l'avenir, sans la crise ukrainienne, les choses seraient allées dans le bon sens. Aujourd'hui, elles sont freinées. Mais en fait, je reviens sur ce point-là, les sanctions n'ont pas vraiment fonctionné. Selon le plan très basique des Américains et des Occidentaux, en fait, ils se sont dit, sanctions, le peuple va être mécontent et va chasser Poutine. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé et l'économie russe ne s'est pas effondrée. En 2017, il y a eu une croissance de quand même du PIB de 1,5%. Donc il n'y a pas eu effondrement. Mais à long terme, le fait de ne pas pouvoir emprunter sur le marché des capitaux financiers étrangers, à mon avis, ça va être un vrai handicap pour l'avenir économique de la Russie.
Merci beaucoup Édouard Moratpour, merci beaucoup Julien Vercueil. Cette émission est maintenant terminée. Vous pouvez la réécouter sur notre site www.rfi.fr. La semaine prochaine, vous retrouverez à ce micro la voix familière de Jean-Pierre Boris.
Écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI.